Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. On connaît désormais les noms des personnalités qui vont porter aux européennes la liste de la majorité. De la ministre Nathalie Loiseau à l'écologiste Pascal Canfin, en passant par l'ancien bras droit d'Édouard Philippe Gilles Boyer. Une liste qui tente à contenter un certain nombre de proches d'Emmanuel Macron, vous le comprendrez. Dans cette édition aussi, nous ferons le point sur la politique intérieure en Algérie. Hier, le chef de l'armée a demandé à ce que le président Abdelaziz Bouteflika soit déclaré inapte au pouvoir. Et puis, au Vatican, la rédaction d'un mensuel consacré aux femmes dans l'Église. Cette rédaction démissionne. Elle regrette une tentative de mainmise masculine sur son travail. Vous l'entendrez dans moins de 10 minutes. Nathalie Loiseau démissionnera officiellement de son poste de ministre des Affaires européennes ce mercredi après le Conseil des ministres. Elle prend en effet la tête de la liste de la majorité pour les élections européennes de mai prochain. Au total, 30 personnalités ont été choisies et annoncées hier. Une liste qui rassemble différentes tendances, droite, gauche, centre, société civile, Stéphane Robert.
C'est une liste un peu fourre-tout que conduira la future ex-ministre Nathalie Loiseau. On y trouve des écologistes, Pascal Canfin, et aussi l'ex-patron d'Europe Écologie Les Verts, Pascal Durand. Des agriculteurs, Jérémy De Serle, président des Jeunes Agriculteurs, Irène Tolleret, une viticultrice de l'Hérault près de Montpellier, et plusieurs ex-journalistes sont également sur les rangs, avec comme figure de proue l'ancien chroniqueur de France Inter, Bernard Guetta. Mais il faut quand même dire que cette liste vise avant tout à donner des gages aux personnalités politiques les plus influentes et les plus proches du président de la République. Et en la matière, c'est François Bayrou qui a été le mieux servi. Il a négocié pied à pied et il a réussi à placer 7 modem parmi les 30 premiers noms de la liste, dont 5 en position éligible. Son tour de force le plus notable est d'avoir réussi à décrocher la 15e place pour la directrice de communication de la ville de Pau, Laurence Despaux-Faringue. Les jupéistes sont également bien représentés, avec l'ancienne maire de Strasbourg, Fabienne Keller, 7e, et puis à la 12e place, le conseiller spécial du Premier ministre Édouard Philippe, ex-directeur de campagne d'Alain Juppé, Gilles Boyer. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a lui aussi placé un de ses hommes, le Brestois Pierre Carleskind. On trouve aussi un proche de Jean-Louis Borloo, Dominique Riquet, l'ancien attaché parlementaire du centriste Jean Arthuis, Valérie Ayer. Bref, en matière d'ambitions européennes, peut mieux faire, commente un responsable du Parti En Marche, parce que cette liste permet surtout de flatter des égos et de nourrir des ambitions personnelles.
Et la campagne de la majorité pour les élections européennes sera lancée ce samedi au nord de Paris, à Aubervilliers. Pendant que sa majorité s'organisait pour les européennes, le président de la République, Emmanuel Macron, recevait lui hier à l'Élysée son homologue chinois Xi Jinping, ainsi que la chancelière allemande Angela Merkel et Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne. Tous ont affiché de larges convergences sur la nécessité de consolider le multilatéralisme, d'approfondir aussi le partenariat entre l'Union européenne et la Chine malgré des divergences. Des relations commerciales plus équilibrées avec la Chine, ce sera l'objet d'un débat lors d'un sommet le 9 avril prochain. Paris et Pékin ont également affirmé hier leur engagement par ailleurs sur le climat. L'armée algérienne lâche Abdelaziz Bouteflika. Hier, le chef de l'état-major Ahmed Gaïd Salah a demandé à ce que le président soit déclaré inapte au pouvoir et que le poste soit vacant. Il s'appuie pour cela sur la Constitution et sur son article 102. Cette déclaration d'Ahmed Gaïd Salah intervient plus d'un mois après le début des manifestations en Algérie, des protestations pour demander justement le départ d'Abdelaziz Bouteflika, Nathanaël Charbonnier.
Un peu d'oxygène. En lâchant le président Bouteflika, l'armée et le pouvoir en place viennent de se donner un peu d'air. Suivant les cas, c'est entre 3 ou 4 mois de gagner, 3 ou 4 mois avant l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle. Reste à savoir si ce temps dégagé est une ruse afin de trouver un successeur idéal pour remplacer le président sortant, ou si l'armée a véritablement compris le message de la rue et des millions de manifestants qui depuis des semaines et des semaines descendent partout en Algérie pour demander un peu plus de démocratie. Il faut dire que l'armée restera quoi qu'il arrive garante de la sécurité du pays et conservera un rôle central. Et certains imaginent même qu'elle n'est pas forcément opposée à voir réalisées par d'autres les réformes importantes que le pays doit faire, notamment dans le domaine économique. Quoi qu'il en soit, exit la réforme de la Constitution qui avait été annoncée par le président Bouteflika et retour à l'ancienne Constitution, ce qui n'est pas forcément non plus une bonne nouvelle pour l'opposition algérienne qui a souvent du mal à s'organiser pour présenter par exemple un candidat unique.
Plus de 200 pilotes, dirigeants et régulateurs seront présents aujourd'hui sur le site de Boeing à Renton dans l'État de Washington. L'avionneur américain doit y présenter la mise à jour du logiciel de son appareil 737 MAX, une réunion attendue après deux crashs d'avions similaires ces six derniers mois. Deux crashs qui ont causé la mort de plus de 300 personnes. Hier en Californie, un appareil du même type, un 737 MAX, a connu un problème technique qui l'a contraint à se poser en urgence. Il n'y avait pas de passagers à bord, l'appareil devait être convoyé pour être entreposé. Theresa May sera-t-elle encore première ministre ce soir? D'après un journaliste du Sun, elle pourrait annoncer aujourd'hui sa démission devant le Parti conservateur. La première ministre britannique espère ainsi faire voter son texte sur le Brexit par les députés. Aujourd'hui, le Parlement britannique va procéder par ailleurs à une série de votes indicatifs sur les différentes options pour le Brexit, justement. Partons à présent en Italie, au Vatican plus précisément. La rédaction d'un mensuel consacré aux femmes dans l'Église a décidé de démissionner. Les journalistes, au féminin, dénoncent un retour au cléricalisme et une tentative de mainmise masculine sur leur travail. La fondatrice de ce mensuel a écrit au pape François hier pour expliquer sa décision, Mathilde Imberti.
Lucetta Scarafia, théologienne et féministe, fonde le mensuel Femmes Église Monde il y a 7 ans, avec l'appui du pape Benoît XVI, puis celui de François, un supplément de l'Osservatore Romano, le quotidien officiel du Vatican. Le changement de directeur à la tête de l'Osservatore Romano s'est accompagné d'une reprise en main, dénonce la journaliste féministe jointe hier soir.
Le nouveau directeur voulait décider des femmes à joindre à notre comité de rédaction et suggérer des arguments. C'est très difficile dans le Vatican de faire entendre sa voix dans la liberté. C'est plus facile qu'il y a des femmes choisies par le clergé, choisies par les hiérarchies, des femmes qui sont choisies parce qu'elles sont obéissantes.
Le mensuel a notamment consacré une enquête au viol de religieuses par des prêtres en début d'année. C'est suite à cet article que le pape a reconnu pour la première fois l'existence de tels abus. Est-ce à cause de ce sujet-là que la situation s'est détériorée? Réponse de Lucetta Scarafia.
Il n'y a personne qui a dit exactement ces mots. Mais je sais qu'un mois après notre article sur les abus de les religieuses, est sorti un article sur le quotidien Osservatore Romano qui faisait une critique au documentaire de Arte où on parlait des abus de religieuses.
Le directeur de l'Osservatore Romano, Andrea Monda, nie ces accusations d'ingérence. Il a été placé à ce poste du jour au lendemain en décembre dernier dans le cadre d'une réorganisation de la communication du Vatican. Le pape François, lui, n'a pas encore réagi à cette démission en bloc de femmes engagées au sein de son Église.
Il s'agit là aussi d'un engagement. En France, la ministre des Sports déplore la tonalité des chants de supporters dans les stades de football. Elle évoque le caractère homophobe de certains de ces chants. La patronne de la Ligue de foot professionnelle a, elle, expliqué que ces chants faisaient partie du folklore dans les stades. Des propos que condamne la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa. Dans le même temps, hier également, deux associations ont déposé plainte contre un ancien joueur international, Patrice Evra, pour des insultes homophobes. Des sanctions existent déjà pour les dérives des joueurs ou des supporters, mais elles ne sont pratiquement jamais appliquées. Alors pourquoi ? Élément de réponse ce matin avec le sociologue Nicolas Ourcade, spécialiste des supporters de football.
Pendant longtemps, on a considéré qu'un certain nombre de chants faisaient partie du folklore des stades, y compris des chants qui pouvaient ressortir un caractère un peu raciste, par exemple, voire ouvertement raciste. Et puis, depuis la fin du XXe siècle, il y a eu une prise de conscience des autorités du football, mais aussi des groupes de supporters, sur le fait que dénigrer l'adversaire sur des critères racistes n'était plus acceptable. Donc, des insultes qu'on peut retrouver encore aujourd'hui dans les stades italiens, notamment, on les retrouve quasiment plus de manière collective dans les stades français, c'est uniquement des comportements isolés. Et ça a passé par une sensibilisation à la question du racisme dans le football. Ça va être la même chose, de mon point de vue, sur l'homophobie. Un travail de sensibilisation, mais de l'ensemble des acteurs. Parce que l'homophobie dans le football, elle concerne pas spécialement les supporters, mais l'ensemble des acteurs, puisque quasiment aucun footballeur ne peut faire son coming out aujourd'hui, sauf en fin de carrière. Et donc, il y a un travail de sensibilisation de tous les acteurs du monde du football pour évoluer sur ces sujets-là. En gros, la sensibilisation profonde de la société française aux questions de racisme, elle date des années 80. Là, sensibilisation aux thématiques homophobes dans l'espace public, c'est beaucoup plus récent. Donc si on veut avoir une vision positive, on peut dire que progressivement ça peut s'améliorer dans les stades. Si on veut avoir une vision négative, on peut dire que ça n'a pas beaucoup évolué depuis 20 ans.
Le sociologue Nicolas Ourcade, il répondait à Audrey Dumain. Météo France prévoit quelques nuages bas sur le nord du pays ce mercredi et toujours un grand soleil au sud de la Loire, sous des températures plutôt douces, avec 9 degrés ce matin à Strasbourg, Paris, Amiens, 10 à Nantes et Lyon, 15 degrés de Perpignan jusqu'à Nice.